Morning Edition from NPR News.
Let's see things on in the house. Hey,
I'm ready to go to Paris.
But we'll get to the radio.
France Inter. Le 18-20.
Édition spéciale, évidemment, ce soir, spéciale guerre déclenchée ce matin par la Russie qui a bombardé tous azimuts le territoire ukrainien, qui frôle même très à l'ouest la frontière polonaise. Prononcer ces mots semble nous ramener des décennies en arrière. Nous sommes bien dans une guerre, dans une invasion. Les Russes à nos portes, celle de l'Europe. Comment freiner ? Peut-on freiner un président Poutine dont on ne peut rien prévoir de ses mouvements à venir ? Comment réagir en Europe, aux États-Unis ? Jusqu'à quel point sommes-nous impréparés pour une guerre que personne ne pensait possible ? Beaucoup de choses à discuter ensemble avec nos invités avant d'ouvrir la deuxième heure à vos questions. Bonsoir à tous.
Fabien Saint-Pès. Édition spéciale.
Et on va aller à Kiev dans un tout petit instant, bien sûr. Je voudrais d'abord saluer celui qui va rester avec nous toute la durée de cette édition spéciale et pendant ces deux heures. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Fabienne.
Géopolitique, bien sûr, tous les matins à 8h17 sur France Inter. Une chose, avant qu'on rejoigne Éric Biegala à Kiev, Pierre, le président ukrainien tout à l'heure a dit « Il y a un rideau de fer désormais, à nouveau un rideau de fer entre la Russie et le monde civilisé ». Est-ce que c'est ce mot qu'on emploie ? En effet, on dit ce soir « retour du rideau de fer ».
C'est retour de la guerre froide, c'est-à-dire que l'Ukraine, elle, connaît une guerre chaude, une vraie guerre, mais pour le reste de l'Europe, c'est la guerre froide, c'est-à-dire que la Russie s'est isolée du reste du continent. Elle a choisi une voie qui est celle de la force et qui n'est pas celle de la, du droit et des relations qui avaient été prévu, envisagé entre les États. C'est une phrase très forte parce qu'elle évoque évidemment la fameuse phrase de Churchill et du début de la première guerre froide, puisque maintenant il faut parler de deuxième guerre froide. Et le rideau de fer, c'est quelque chose que on pensait fini, dépassé, oublié, et qui revient dans nos vies 30 ans après la fin de la première.
Et justement, vous avez d'ailleurs rappelé ce matin, Pierre, les phrases d'Antonio Guterres, qui est le patron de l'ONU, et c'est peut-être l'une des clés, au fond, de ce qui nous arrive. Dans un passé récent, a-t-il dit, il y a eu plusieurs situations avec des indices similaires et des rumeurs similaires, et je n'y ai pas cru, persuadé que rien de grave n'arriverait. J'avais tort. En réalité, personne n'y a vraiment cru. Est-ce que c'est pas ça aussi la clé ? Notre logiciel, le logiciel européen, a changé en tout point, évidemment, depuis ces années dont vous parliez, pas celui de Vladimir Poutine, et c'est peut-être ça qu'on n'a pas vu venir, en fait.
Oui, je pense qu'il y a eu deux étapes dans notre construction d'un esprit pacifique. La première, c'est évidemment le début de la construction européenne, c'est fait sur la réconciliation franco-allemande, donc la fin du risque de guerre en Europe, et puis deuxième étape, la chute du mur, la réunification de l'Europe, et donc l'évacuation du conflit et de la guerre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas préparés mentalement à cette idée de la guerre. Et là où Poutine, je pense, a surpris presque tout le monde, il faut bien le dire, c'est qu'il est allé dans la version la plus extrême de tous les scénarios qui étaient envisagés. On se disait, ok, il va récupérer un petit bout du Donbass.
Mariupol,
qui est ce port sur la mer d'Azov et qui fait partie historiquement des zones qu'il contrôle, etc. Non, il est allé pour non seulement toute l'Ukraine, puisqu'il y a des bombardements, vous l'avez dit, un peu partout, mais aussi pour abattre ce régime. Et en fait, on aurait dû le comprendre dès lundi soir, avec ce fameux discours sinistre qui a été le déclencheur de tout ça, c'est-à-dire la négation de l'Ukraine en tant que pays et que peuple.
Mais Pierre, le comprendre peut-être même avant d'ailleurs lundi, parce que moi j'ai eu le sentiment aussi que les Américains nous le disent depuis plusieurs jours et que nous ne l'entendons pas. C'est même une politique qui est très rare chez eux. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tous les renseignements qu'ils avaient, ils les ont donnés, y compris les plus alarmistes, et tous ensemble nous avons eu le sentiment, y compris d'ailleurs le président ukrainien qui à un moment leur a dit c'est bon, faut arrêter maintenant. Tout le monde les a pris pour des Cassandres en disant c'est pas vrai, arrêtez cet alarmisme. Ils ont eu raison du début jusqu'à la fin.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est même la chose la plus stupéfiante, c'est à quel point les Ukrainiens eux-mêmes, et à commencer par leur président, étaient en deçà de ce que disaient les Américains, ce qui a donné lieu d'ailleurs à pas mal de commentaires dans la classe politique française sur le thème « les Américains veulent la guerre, ils poussent à la guerre, etc. » Regardez, les Ukrainiens n'y croient pas. Et bien finalement, effectivement, tout ce qu'ils ont annoncé est en train de se réaliser.
Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Eric. Vous êtes à Kiev et vous nous le racontez, bien sûr, et formidablement depuis ce matin. Je voudrais d'abord que vous nous disiez, puisque vous avez été réveillé ce matin très brutalement, cet après-midi aussi, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de bombardements. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment ça se passe pour vous à Kiev? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Est-ce que ça sent toujours la panique? Est-ce qu'on est dans cette espèce d'état d'effroi et de sidération? Comment on peut qualifier l'atmosphère de Kiev? Là, au moment où on se parle, il est 18h20, les premiers bombardements datent de 4h ce matin.
Alors, l'atmosphère est quand même très très calme, puisque en fait, il y a une sorte de... il y a un couvre-feu hein, qui a été instauré, mais en fait, il est effectif à partir de 22h ce soir sur la ville de Kiev. Mais cela dit, toute la journée, on a un petit peu eu l'impression que la ville était sous couvre-feu. Les gens ne sortaient pas, sortaient très peu. Il y avait quand même quelques voitures qui circulaient en ville. Il y avait surtout un train de voitures absolument immense qui essayait de quitter la capitale vers l'ouest, mais pas seulement, en fait, un petit peu tous azimuts. Les gens se dirigeaient, pour ceux qui en avaient, vers leur résidence secondaire, hein, très souvent, leur datcha à la campagne, ce genre de choses. Mais il y avait aussi, clairement, des embouteillages qui ont été monstrueux, notamment en fin de matinée, pour sortir de Kiev. Mais sinon...
Allez-y.
À part quelques sirènes, à part effectivement quelques bombardements, on a eu quand même quelques missiles qui sont manifestement tombés en pleine ville et qui ont fait des morts, hein, notamment dans la proche banlieue de près de l'aéroport Boryspil de Kiev. Sinon, c'est relativement calme. Il faut dire que c'est difficile de circuler. Il n'y a plus de taxis. Le métro a été arrêté. Les gens utilisent les couloirs du métro comme abri. Beaucoup se sont mis aux abris, sont descendus. Mais sinon, tout est normal. Le réseau internet, le réseau téléphonique, par exemple, fonctionne complètement. On a de l'électricité. Je m'attendais à pire.
Alors, Eric, en même temps, le pire est toujours à venir, vous savez. Vous avez une vue d'ensemble. Et moi, j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez, que vous nous disiez où les Russes ont frappé sur le territoire ukrainien, avec quoi. Comprendre cette géographie des frappes, ça dit évidemment une partie de ce que les Russes ont en tête.
Alors, en fait, ils ont frappé absolument partout. Hein. Le territoire ukrainien dans son entier est sous le feu. C'est difficile de voir exactement ce qui a été visé. Ce qui semble absolument certain, c'est qu'ils ont commencé par s'en prendre à tout ce qui était structure militaire ukrainienne visible, et notamment les aéroports et les défenses anti-aériennes. Alors, les aéroports, évidemment, ça se repère de loin, ça ne bouge pas, par définition, et on peut... Il lançait des bombardements depuis très loin grâce à des missiles de croisière. Alors la plupart des aéroports en fait du pays ont été touchés, qu'il s'agisse de bases aériennes militaires ou d'aéroports civils, y compris d'ailleurs dans des endroits qui sont très très éloignés. L'aéroport de Ivano-Frankivsk, on est à 200 km de la frontière polonaise, c'est complètement à l'ouest du pays, a été attaqué. Il a reçu au moins 3 missiles et je crois qu'il y a eu au moins une victime civile sur la piste. Mais sinon, donc ça a été, on va dire, les premières frappes. Il semble que l'armée russe soit parvenue à ses fins, puisque, a priori, maintenant, elle maîtrise complètement le ciel. Quelques chasseurs-bombardiers ukrainiens ont réussi à décoller, ont réussi même probablement à abattre un ou deux hélicoptères d'attaque dans le pays, mais c'est à peu près tout. On ne les entend plus ce soir, on les a entendus en début d'après-midi au-dessus de Kiev, on ne les entend plus ce soir. L'un d'entre eux a réussi à se réfugier, si je puis dire, en Roumanie, un Sukhoi 27, je crois. Voilà. Alors, sinon, pour ce qui est du reste des offensives, c'était un petit peu tous azimuts. Alors, bien sûr, sur la façade orientale hein, du pays, il y a eu une poussée dans la région de Kharkiv, c'est la deuxième grande ville d'Ukraine, et puis dans le Donbass. Ça a été relativement bien stoppé par l'armée ukrainienne. Il n'y a pas eu véritablement de percée, on va dire. Les Russes ont même perdu assez vite plusieurs appareils. Je crois qu'en tout, on aurait à peu près 7 chasseurs bombardiers qui auraient été descendus, autant d'hélicoptères, et puis mais l'armée russe n'a pas vraiment réussi à s'apercer sur l'est. En revanche, dans le sud,
rapidement, pardon, Eric.
Voilà, dans le sud, en fait, on a eu 2 colonnes d'assaut qui sont sorties de Crimée et qui ont pris la ville de Kherson. On est à 150 km. C'est une ville importante, c'est un port, c'est un chantier naval. Et là, tout à l'heure, on avait des images de soldats russes qui patrouillaient à pied dans la ville de Kherson. Manifestement, c'est la première ville qui est tombée.
Merci beaucoup, Eric Biegala. Merci vraiment. Je voudrais saluer Raphaël Glucksmann qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé, Raphaël Glucksmann, bien sûr. Vous êtes en ce moment place de la République dans la manifestation de soutien au peuple ukrainien. Des manifestations de ce type, par ailleurs, je voudrais le souligner, il y en a en ce moment un certain nombre, beaucoup, dans beaucoup de capitales européennes. En écoutant Raphaël Glucksmann, ce que nous dit Éric Bégala sur les lieux de bombardement, sur ce que nous savons depuis ce matin, est-il clair pour vous que le but russe, c'est d'avancer, de déloger le président ukrainien ?
Le but russe a été annoncé par Vladimir Poutine et il faut le prendre au mot. Le but russe, c'est la destruction de la démocratie ukrainienne. Le but russe, c'est de nier l'existence même de l'État ukrainien en tant qu'État libre et souverain. Et donc le but russe, c'est pas simplement le Donbass. Le but russe, c'est vraiment... il faut écouter les propos de Vladimir Poutine. Je sais qu'on a tendance ici à vouloir toujours anticiper le meilleur, à vouloir faire preuve d'optimisme, à ne pas croire aux Cassandres. Mais jusqu'ici, chaque fois qu'une option radicale était possible, eh bien, il l'a prise. Et donc, le but russe, c'est aujourd'hui la destruction d'une nation démocratique qu'est l'Ukraine et dont le seul crime est d'avoir voulu vivre libre.
Raphaël Glucksmann, tout à l'heure, Pierre Aski nous disait, si nous n'avons pas réussi à entendre les bruits qui pourtant, pour certains, étaient assez clairs, c'est parce que nous ne sommes pas préparés mentalement. On n'a pas ça dans notre logiciel là, en ce moment. Est-ce que nous l'avons maintenant, si j'ose dire, ou est-ce que c'est trop tard ? Il y a des sanctions européennes, bien sûr, elles sont là désormais, mais pour l'instant et à court terme, ces sanctions n'y font rien. Est-ce que c'est trop tard pour stopper de toute façon cette avancée russe ?
Il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Il est très tard parce que depuis 20 ans, Vladimir Poutine a enchaîné les guerres et qu'à chaque fois, les Européens et les Occidentaux ont cherché des justifications, ont cherché des raisons d'espérer qu'il n'irait pas plus loin. Quand il a envahi la Tchétchénie, on a pensé que c'était de la faute des Tchétchènes. Quand il a envahi la Géorgie, on s'est dit que c'était de la faute des Géorgiens. Quand il a envahi, annexé la Crimée et occupé le Donbass, on a espéré que ça allait s'arrêter là. Quand il a rasé Alep, on s'est dit que c'était effectivement juste une affaire syrienne. Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus se dire ça. Et donc, il y a une prise de conscience. Et on a une fenêtre d'opportunité extrêmement réduite pour frapper fort, très fort. Pas des sanctions symboliques comme il y a eu après la Crimée, mais des sanctions massives qui doivent isoler complètement le Kremlin. Des sanctions qui doivent viser les oligarques russes, puisque ce régime est aussi un régime de kleptocrates, qui doivent viser les oligarques russes qui ont mis leur argent dans nos banques, qui ont des villas sur nos côtes, qui ont des chalets dans nos montagnes, qui ont des appartements dans le 8e arrondissement de Paris et des restaurants. Il faut frapper extrêmement fort ou sinon, eh bien, l'Ukraine n'aura été qu'une étape dans l'entreprise guerrière de Vladimir Poutine.
Les Russes semblaient assez sereins face à tout ça. On peut bien imaginer évidemment que c'est une posture, cette image qui dit de toute façon les sanctions, on s'en fout. Mais on a aussi le sentiment que eux, Raphaël Glucksmann, sont préparés, le savaient, imaginaient ce qui allait se passer et donc que les sanctions allaient tomber et qu'ils ont ce coup d'avance.
Bien sûr, ils ont le coup d'avance de celui qui n'a pas peur de la guerre. Nous avons peur de la guerre, nous avons peur du conflit, nous ne voulons pas le rapport de force et donc il est toujours en avance sur nous. Mais nous ne sommes pas impuissants face à lui. Vous savez, si on disconnecte complètement la Russie du système bancaire international, si on frappe l'ensemble des oligarques, eh bien ça a un impact à Moscou. Et donc c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et toute hésitation, toute faiblesse ne sera qu'une invitation à l'agression, à l'invasion, à la guerre. C'est le moment aujourd'hui pour les dirigeants européens de se hisser au niveau de l'histoire qui leur fait face. Pendant très longtemps, les Européens ont voulu croire au mythe de la fin de l'histoire. Aujourd'hui, ils se rendent compte que l'histoire est demeurée tragique, qu'il y a des conflits géopolitiques qui ne peuvent pas être résolus simplement par le dialogue et qu'il va falloir assumer des rapports de force. Sont-ils prêts ? On ne sait pas. Aujourd'hui, des discussions extrêmement dures ont lieu entre les leaders européens. L'unité qui a été affichée dans les premières heures, doit se confirmer dans des prises de position fermes. Or, des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne aussi, sont réticents à aller assez loin pour être entendus par Vladimir Poutine. Et donc c'est vraiment, les heures qui suivent sont décisives. Si nous ne faisons pas le paquet de sanctions qui est capable de dissuader le Kremlin d'aller plus loin, les dirigeants européens porteront une responsabilité immense dans le basculement de notre monde et de notre continent dans une guerre permanente.
Vous parlez de divisions qui peuvent pointer effectivement en Europe. Pour l'instant, le bel ensemble, effectivement, c'est ce que l'Europe montre. On verra combien de temps, effectivement, ces choses-là diront. Mais on a aussi vu monter, Raphaël Glucksmann, le prix des matières premières, celle de l'énergie qui va grimper. Il y aura des conséquences pour nous, Européens également. Est-ce qu'on est préparé à ça? Est-ce que nos politiques nous ont bien prévenus? Faut-il le faire encore? Faut-il le faire mieux? Faut-il nous faire comprendre et comment qu'à un moment, oui, nous aussi, nous aurons les conséquences de cette guerre?
Le rôle d'un dirigeant politique, c'est d'expliquer aux gens, aux citoyens, que la souveraineté a un prix, que la paix peut avoir un prix, et qu'il faut être prêt à payer ce prix pour éviter de payer un prix bien plus grand encore quand la guerre s'étendra. Et donc oui, bien sûr, on a vu par exemple la réaction de Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, fantoche d'ailleurs, lorsque les Allemands ont décidé enfin de suspendre le gazoduc Nord Stream 2, il a promis un monde dans lequel les prix du gaz flamberaient. Et en fait, on se rend compte de quoi? Que notre faiblesse, que notre absence de préparation nous a transformé en sujet facile pour le chantage gazier et énergétique des Russes. Donc il y a des mesures immédiates à prendre, des sanctions immédiates à prendre. Il y a aussi une réorganisation de l'Union européenne à entamer, notamment sur les questions énergétiques, pour ne plus dépendre de la Russie. Et c'est vraiment fondamental. Il faut comprendre que si jamais on ne le fait pas, eh bien on perd notre souveraineté, on perd notre capacité à défendre nos principes et nos intérêts, puisque les deux là se rejoignent et les deux sont menacés par Vladimir Poutine.
Au-delà des sanctions, et on vous a bien entendu, des sanctions plus fortes, dites-vous, il y a les armes, il y a un certain nombre d'armes qui vont être données aux Ukrainiens. Et là aussi, j'ai envie de vous demander si ça suffit, s'il n'y a pas quelque chose de presque dérisoire d'offrir au fond aux Ukrainiens le moyen d'une résistance, certes, mais l'armée ukrainienne en face de l'armée russe, c'est vraiment David contre Goliath. Et nous, on n'ira pas, ça c'est une certitude.
C'est une certitude, mais la seule chose qu'on peut faire quand on sait qu'on n'ira pas, c'est d'accéder aux demandes de ceux qui y sont, qui n'ont pas le choix et qui se battent et qui essayent de résister une armée bien plus puissante que la leur. Et donc la France et l'Allemagne, par exemple, qui livrent des armes offensives à bon nombre de tyrannies dans ce monde, doivent cesser d'hésiter quand il s'agit de donner à une démocratie attaquée comme la démocratie ukrainienne les moyens défensifs de se défendre, les armes anti-tank et anti-aériennes que les Ukrainiens eux-mêmes demandent. Donc, bien sûr, ce ne sera pas suffisant pour résister militairement à la Russie, sans doute, mais au moins répondons aux demandes de ceux qui n'ont pas le choix et qui se battent. Vous savez, les Ukrainiens, c'est vraiment une nation européenne, ils ne sont pas prêts à cette guerre. Kiev, c'est comme Paris. C'est comme si tout d'un coup, à Paris, il y avait une armée qui commençait à bombarder et qui plongeait le pays dans la guerre. Bien sûr qu'ils ne sont pas prêts, mais il y a une nation ukrainienne, il y a un sentiment patriotique ukrainien, il y a une volonté de résister. Et nous qui n'allons pas nous battre, la seule chose que nous pouvons faire, c'est sanctionner lourdement ceux qui les agressent et donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, ce qu'ils réclament.
Une dernière chose avant de vous laisser au cœur de cette manifestation, Raphaël Glucksmann, votre collègue parlementaire Bernard Guetta, ce matin d'ailleurs sur France Inter, disait il faut pour l'Europe un geste fort, il faut une prise de parole européenne à l'endroit des Russes, à l'endroit de Vladimir Poutine. Alors je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron qui préside pour 6 mois l'EU, si c'est Ursula von der Leyen à la Commission. Est-ce que vous diriez que oui, il faut une prise de parole européenne à l'adresse des Russes maintenant? Est-ce que ce serait, selon vous, un plus, quelque chose de symboliquement fort?
Bien sûr, vous savez, le discours du président Zelensky en russe à destination de l'opinion russe était extraordinaire et a eu un impact puissant en Russie. Il faut continuer à s'adresser à la Russie, mais pas à l'État russe, pas au régime tyrannique de Vladimir Poutine. Il faut s'adresser à la société civile russe. Vous savez, en ce moment, en Russie, il y a des jeunes qui bravent les interdictions, qui bravent le risque des arrestations pour aller manifester leur hostilité à la guerre. Eh bien, c'est cette Russie-là qu'il faut aider, à laquelle il faut s'adresser. Désormais, nous devons couper nos relations avec le régime tyrannique de Poutine, mais nous devons continuer à parler aux Russes, à encourager la société civile russe. Vous savez, pendant très longtemps, les dissidents russes nous ont alerté sur la nature du régime de Poutine et nous n'avons pas voulu les aider, nous n'avons pas su les écouter, nous n'avons pas su les entendre. Il est temps aujourd'hui de s'adresser à cette société russe là et de lui montrer que nous sommes à ses côtés, que c'est pas un conflit contre la Russie, c'est un conflit contre un régime. Et ces Russes qui s'opposent au risque de leur liberté à Vladimir et parfois de leur vie à Vladimir Poutine et à son régime, ils seront pour, si jamais nous nous attaquons aux villas, aux yachts, aux chalets, des kleptocrates qui les ont pillés. Il est temps qu'on empêche les kleptocrates qui ont pillé le peuple russe de venir en Europe jouir de nos plages et de nos stations de ski. Il est temps que nous soyons cohérents, que nous soyons fermes. C'est vraiment un moment décisif pour l'Europe et il est temps aussi que les opinions poussent leurs dirigeants à faire preuve de cette fermeté.
Merci beaucoup Raphaël Glucksmann, eurodéputé. Merci en direct avec nous depuis la place de la République, donc dans la manifestation de soutien qui se tient en ce moment au peuple ukrainien à Paris. Pierre Aski, je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué avec Raphaël Glucksmann et que vous évoquiez vous juste avant sur notre impréparation mentale. Raphaël Glucksmann disait, oui, il faut aussi que nous soyons prêts, nous, Européens, à un certain nombre de sacrifices parce qu'il y aura des conséquences. Moi, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce qu'on y est réellement préparé? Est-ce que c'est pas ça qui risque effectivement de diviser une Europe qui, pour l'instant, semble particulièrement unie?
Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas prêts à affronter une crise de cette ampleur, mais on voit bien qu'il y a des choses qui changent. En Allemagne, par exemple, Angela Merkel avait toujours refusé de toucher à Nord Stream 2. La nouvelle majorité, avec les Verts, parce que les Verts ont beaucoup poussé pour ça, a finalement pris cette décision. Donc on voit bien que... Et avait prévenu, avant même le début de cette guerre, avait prévenu qu'il y aurait un coup pour les citoyens et pour l'économie allemande. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. Ce soir, il y a une réunion du Conseil européen à Bruxelles qui va se pencher sur cette liste des sanctions. Et on entend des pays qui ne veulent pas sacrifier des intérêts économiques majeurs parce que effectivement la Russie, on a construit...
Et parce qu'on n'est pas égaux en Europe face à cette dépendance.
Exactement. Par exemple, l'Italie a tout un tissu de PME et d'entreprises assez de taille moyenne pour qui la Russie est un marché extrêmement important. Mais je pense que le moment est grave et je pense que tout le monde partage cette gravité. Et donc ça sera le test ce soir, mais je pense que l'Europe sera au rendez-vous quand même de cette gravité.
Et l'idée d'un discours européen à l'adresse des Russes, vous y croyez à ça? Est-ce que symboliquement, c'est quelque chose qui peut avoir du poids?
Je ne pense pas dans cette phase immédiate, parce qu'on est au cœur de l'action. Je ne suis pas sûr que dans le brouhaha de la guerre, ce soit particulièrement audible.
Bonsoir André Kourkov.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'écrivain que l'on connaît. Vous vivez à Kiev, vous y vivez depuis toujours ou quasiment. Dites-nous d'abord comment va Kiev aujourd'hui, au moment où on se parle. Et dites-nous surtout pourquoi vous avez décidé, vous, au moment où on se parle, d'y rester. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que vous voulez rester dans votre ville?
Oui, je veux vivre dans mon ville. Je reviens toujours de tous mes voyages à Kiev. Et Kiev, c'est une partie de mon âme et de ma vie. Et en fait, on a discuté quelques fois aujourd'hui avec ma femme, est-ce qu'il faut aller dans notre maison dans la campagne pour dormir normalement, parce que j'attends cette nuit aussi des missiles russes, comme la nuit précédente. Et on a décidé de rester, et on va voir qu'est-ce qui va passer. Mais en fait, la situation est très grave et l'armée russe maintenant contrôle la station nucléaire de Tchernobyl. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient prendre contrôle des zones Tchernobyl et des stations Tchernobyl. Et il y a un combat qui dure déjà quelques heures, 25 km de Kiev, près des aérodromes militaires Gostomel.
Est-ce que ça, c'est... Est-ce que vous dites, André Kourkov, que est-ce que même vous vous préparez à voir arriver dans la ville de Kiev des soldats russes? Est-ce que vous imaginez qu'ils iront jusqu'à s'attaquer réellement à la présidence? Est-ce que c'est ça qu'on a dans la tête aujourd'hui lorsqu'on est à Kiev?
Pour moi, c'est plus facile d'imaginer les soldats d'Allemagne dans la guerre deuxième mondiale à Kiev que les soldats russes des cafés de Kiev et dans les rues de Kiev. C'est plus surréaliste que la guerre deuxième mondiale.
C'est plus surréaliste que la Deuxième Guerre mondiale, dites-vous. Pourquoi, pour vous, c'est plus surréaliste? Est-ce que ça veut dire que, jusque-là, à aucun moment vous vous êtes dit « Non, ça, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer, ça ne se passera pas comme ça
je pensais que c'est possible, en fait, pendant les dernières deux semaines, mais j'espérais que ça ne va pas arriver. Et maintenant, quand ça arrive... je ne crois pas mes yeux quand je lis des nouvelles.
Et quand
qu'est-ce
vous...
qu'il passe.
Et quand vous voyez aussi ce qui se passe chez vous, peut-être par votre fenêtre, André Kourkov, qu'est-ce que vous attendez de nous, nous les Européens, dont vous savez que nous ne viendrons pas en soldats, mais qu'est-ce que vous attendez de nous?
Ouais, pas beaucoup, mais au minimum des aides militaires, peut-être des armes pour défendre notre indépendance. Peut-être des aides médicales, parce qu'il y a beaucoup de soldats et beaucoup de gens civils qui sont blessés, gravement blessés, et c'est aussi des enfants. On ne sait pas vraiment combien des Ukrainiens sont déjà tués. Le gouvernement ne donne pas cette information, peut-être pour ne pas provoquer, pour ne provoquer pas la panique ou la tristesse, mais on comprend que l'Ukraine paye trop cher pour la défense du pays aujourd'hui.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la population autour de vous, les jeunes à Kiev, sont prêts à une résistance au sens, en disant ça, moi j'ai presque envie de dire une résistance qui ressemble, vous faisiez l'allusion à la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure, mais à cette forme-là de résistance, est-ce que c'est ça l'avenir très proche au fond des rues de Kiev, selon vous, André Kourkov?
Oui, il y aura résistance. Je ne sais pas quelle sorte de résistance, mais je connais les jeunes hommes qui participaient déjà dans la guerre à Donbass, qui sont revenus et devenus les vétérans. Et maintenant, ils sont les réservistes mobilisés et ils voulaient être mobilisés hier et ce matin, qui partaient pour les régions différentes d'Ukraine où il y a des combats avec l'armée russe.
Merci beaucoup, André Kourkov. Merci vraiment. Je vous souhaite bonne chance. Je croise les doigts vraiment pour vous dans ce Kiev où vous avez décidé de rester. Pierre Aski, c'est à ça qu'il faut s'attendre, effectivement. Peut-être dans les jours à venir, c'est ça qu'on va couvrir, là, une espèce de guerre de rue à rue, y compris dans des villes comme celle de Kiev.
Je pense que c'est quasiment inévitable parce que dans les objectifs fixés par Poutine, il y a le désarmement de l'Ukraine. Donc ça veut dire la destruction du potentiel de défense de l'Ukraine. Et ça passe par ce qui a déjà commencé, la destruction des bases aériennes, la destruction des drones, parce que c'était un enjeu majeur. L'Ukraine s'était dotée de drones turcs et donc il fallait les abattre. Et ça passera ensuite, ça c'est le deuxième objectif de Poutine, ce qu'il a appelé la dénazification. Ce qu'il appelle la dénazification, c'est-à-dire abattre le régime, abattre le gouvernement et donc capturer ou neutraliser un certain nombre de dirigeants du pays. Donc ça
veut
dire
entrer et le président,
sans doute le remplacer par un homme de Lige qui sera au service du Kremlin. Mais ça passe par le fait d'arriver dans le centre-ville, d'arriver dans les bureaux, dans les ministères.
Et pardon, ça paraît tellement dingue de se dire qu'en fait ce qu'il essaye de faire, c'est une sorte de Biélorussie, en fait, d'avoir une espèce d'État à sa botte qui serait l'Ukraine, c'est dont il a toujours rêvé. Mais on la connaît, l'histoire ukrainienne. On connaît l'histoire de la révolution de 2004 et puis celle de Maïdan en 2014. Et puis ce pays, c'est ce que disait Raphaël Glucksmann à l'instant, tourné vers l'Europe et vers l'Ouest. Est-ce que sincèrement, on arrive à imaginer ça, le placement d'un gouvernement fantoche à la tête de l'Ukraine aujourd'hui? On sait bien que c'est le but de Vladimir Poutine, mais Pierre Aski, est-ce que vraiment ça a du sens de se dire que c'est possible aujourd'hui?
Je pense que il faut arrêter de penser que certaines choses ne sont pas possibles. On a été dans le déni au cours des dernières semaines en se disant « ça n'est pas rationnel, il ne va pas faire ça ». Il l'a fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a un plan de guerre qu'il est en train de dérouler et il tentera, est-ce qu'il en aura les moyens jusqu'au bout, je ne sais pas, mais en tout cas, il tentera de l'appliquer de A jusqu'à Z.
Je voudrais vous présenter une nouvelle invitée. Bonsoir Lulia Choukan.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en études slaves à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine et vous aussi d'ailleurs, vous êtes du côté de la place de la République au moment où on se parle. Et pour poursuivre cette discussion dont vous avez eu un petit extrait depuis votre téléphone, moi j'ai une question. Diriez-vous que les Ukrainiens sont seuls au moment où on se parle? Se sentent-ils particulièrement seuls ou se sentent-ils au contraire épaulés au milieu de cette Europe dans laquelle ils sont?
Non, je trouve qu'ils se sentent seuls, mais ils se sentent seuls pas uniquement depuis ce matin, depuis cette agression russe, ils se sentent seuls depuis plusieurs mois déjà. Rappelez-vous, enfin, le discours de Zelensky à la conférence de Munich, où il demandait aux Européens d'adopter des sanctions et de ne pas attendre que l'Ukraine soit agressée militairement par la Russie. Or, on a vu que les sanctions étaient relativement douces, effectivement, après la reconnaissance des territoires séparatistes, et qu'aujourd'hui, on a des bombardements sur Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson, enfin, sur tous les fronts.
Est-ce que y a-t-il une vraie conscience en Ukraine que les Européens, de toute façon, ne mourront pas pour Kiev, ni les Européens, ni les Américains d'ailleurs? Est-ce que ça, de toute façon, est une vraie conscience, quelque chose qui dit on va de toute façon devoir se débrouiller tout seul, y compris dans ce rue par rue dont on parlait à l'instant avec Pierre Aski?
Je pense qu'effectivement, il y a cette conscience-là, et au moins là-dessus, je pense que nous, les Européens et les Américains, ont été clairs. On leur a jamais promis, effectivement, une intervention en leur faveur. Par contre, ce qu'ils nous demandent, c'est une assistance militaire, une assistance logistique, et notamment médicale, une assistance humanitaire aussi, parce qu'il faut qu'on se prépare à accueillir des centaines de milliers de personnes qui vont fuir la guerre.
Est-ce que Volodymyr Zelensky, Yulia Shukhan, vous étonne et étonne même son pays, l'Ukraine, cet homme qui était humoriste, qui était scénariste, qui s'est retrouvé à la tête de l'Ukraine et qui aujourd'hui est aussi un chef de guerre, se mue réellement en chef de guerre? Est-ce que c'est un homme qui étonne son pays aujourd'hui?
J'ai pas très bien entendu la question, mais je...
Est-ce que Zelensky, le président Zelensky, est un homme qui étonne son pays aujourd'hui, maintenant qu'il a fait sa mue en chef de guerre?
Il a été, c'est un grand décalage effectivement entre la perception de Zelensky en Occident. On l'a dépeint comme un président ayant du sang-froid, ne craquant pas face à la menace russe à laquelle jusqu'au dernier moment on ne croyait pas. Et en Ukraine, il y avait quand même vis-à-vis de lui un peu plus d'attente, de mobilisation notamment plus générale, de préoccupation un peu plus grande aussi pour le rééquipement militaire de l'armée. Et donc, ce décalage continue à se faire sentir, mais aujourd'hui, il a une grande charge sur lui. Il a globalement plutôt montré, voilà, que même étant novice en politique, on peut devenir chef d'État avec beaucoup de défauts et de critiques qu'on peut lui adresser, mais aussi avec beaucoup de volonté et des gestes aussi, hein, dans le sens des réformes engagées. Donc, je pense que, voilà, enfin, c'est plutôt un moment révélateur pour lui aussi. Soit il se montrera comme un grand chef d'État, et il essaie de le faire. Effectivement, il va rester jusqu'au bout avec son pays, où il va se révéler effectivement, voilà, ce manque de professionnalisme va même lui être préjudiciable en cette période de guerre.
Yulia Shukhan, pensez-vous que c'est un homme en danger, Zelensky, aujourd'hui, que sa vie est en danger?
Si, effectivement, on se réfère à un certain nombre de renseignements qui étaient donnés sur ce plan de mise en place d'un gouvernement fantoche à Kiev, et on voit que jusqu'au dernier moment, je vous ai écouté pendant 10 minutes, effectivement, je sens à quel point il est difficile de se dire qu'on est là en guerre et que les grandes agglomérations ukrainiennes sont sous obus russes, sous bombardement. Si c'est ce plan-là, effectivement, il peut être menacé, parce que, en fait, Vladimir Poutine a été très clair là-dessus. Il considère le régime totalement illégitime, alors qu'il y a eu deux élections effectivement démocratiques en Ukraine en 2014, ainsi que l'élection présidentielle en 2019. Et donc le destin du Kremlin, c'est de remplacer ce pouvoir soi-disant illégitime.
Mais est-ce que vous le voyez, vous? Alors c'est vrai, je trouve intéressant que vous nous avez écouté pendant 10 minutes et vous sentez cette espèce d'incrédulité, en fait, qui est celle de tout le monde aujourd'hui, de cette guerre comme ça aux portes de l'Europe. Est-ce que vous pensez possible, est-ce qu'il y a vraiment cette crainte de la transformation de l'Ukraine en une sorte de Biélorussie, en fait, avec effectivement l'installation d'un gouvernement fantoche à la place de l'Ukraine aujourd'hui, du président ukrainien?
Je pense que la tâche des Russes va être extrêmement difficile, parce que c'est quand même un pays qui vit sous la guerre depuis 8 ans, c'est un pays qui a connu 6 vagues de mobilisation, c'est un pays où il y a 400 000 hommes au moins qui ont une expérience combattante, je parle bien évidemment au-delà de l'armée et donc des troupes régulières. Donc il y a une détermination, j'ai entendu aujourd'hui, j'ai essayé de recueillir les témoignages de mes amis, leurs sentiments, il y a de la haine, la haine vis-à-vis du Kremlin, il y a de la détermination, et donc je pense que si à Moscou on pensait que effectivement ça allait être assez facile et que le pays allait tomber, je pense qu'il y aura beaucoup de résistance.
Merci beaucoup Yulia Shukhan, maîtresse de conférence en études slaves à l'université de Paris-Nanterre. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Pierre Aski, le temps joue pour qui?
Je pense que dans le court terme, le temps joue pour Poutine. C'est lui qui a l'initiative et on l'a dit plusieurs fois, les initiatives qui sont prises par les Occidentaux, que ce soit à Bruxelles, à l'OTAN ou par les États-Unis, n'auront pas d'impact immédiat. Elles n'empêcheront pas Poutine, qui a pris cette décision froidement de déclencher cette guerre, d'aller jusqu'au bout. Le risque, c'est que à l'arrivée, on ait une Ukraine en chaos, c'est-à-dire qu'on transforme ce pays en un pays failli, c'est-à-dire avec des infrastructures détruites, avec un gouvernement en lambeaux et des pans entiers du pays qui seront sous les mains aux mains des partisans du Kremlin. Et dans ce scénario-là, on peut très bien imaginer effectivement un régime fantoche s'installer et réprimer. Comme on l'a vu en Biélorussie il y a 2 ans, personne, à un moment, on pensait que Loukachenko, le président biélorusse, ne résisterait pas à l'ampleur de la révolte populaire, et il a réussi à reprendre le dessus.
Corentin Célin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, Corentin Célin. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur en classe préparatoire agrégé d'histoire. Et c'est du côté de Joe Biden et de l'OTAN qu'on a envie d'aller avec vous, Corentin Célin. Il y a eu d'abord cette stratégie américaine, on en parlait en début d'émission, de tout donner en matière de renseignement, quitte à ne pas être cru. C'est ce qui d'ailleurs s'est passé. Ils ont été finalement rarement crus. Aujourd'hui, ça continue et c'est eux qui nous disent le but, c'est d'aller jusqu'à Kiev et jusqu'au gouvernement. Un mot d'abord sur cette stratégie de Joe Biden qui consiste à tout mettre sur la place.
Oui, alors cette stratégie, évidemment, aujourd'hui, elle laisse Biden en quelque sorte au milieu du guet, parce que d'un côté, il a réhabilité le renseignement états-unien dont la réputation avait été écornée dans l'opinion mondiale, en particulier par la guerre en Irak. Là, il faut bien noter que depuis novembre, c'est pas rien, depuis novembre 2021, le renseignement états-unien affirme que en février, Vladimir Poutine va attaquer l'Ukraine. Et ça s'est fait de plus en plus précis les dernières semaines. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire, c'est un succès pour l'administration Biden. Surtout si on veut se souvenir de à quel point les relations étaient mauvaises entre le renseignement et Donald Trump, son prédécesseur. Mais de l'autre côté, le fait d'avoir tout mis sur la table, comme vous dites, ça n'a pas du tout dissuadé Poutine. Alors, est-ce que c'était le but ? Peut-être pas. Le but premier, c'était de faire un récit de contre-information par rapport au récit de propagande poutinien qui était de dire « je viens en aide aux populations du Donbass russe qui sont en train de subir un génocide ». Et donc, évidemment, les États-Unis ont proposé un autre récit fondé sur l'enseignement qui s'avère exact. Donc, c'était peut-être pas le but de dissuader, mais on espérait peut-être, et c'est ce qui était sorti dans la presse, on espérait que ça puisse dissuader Poutine. Ça ne l'a pas dissuadé. Donc, de ce point de vue, on est au milieu du guet. Réussite, mais en même temps, pas dissuadé.
Et avec des États-Unis, hein, Joe Biden, Corentin Célin, qui a l'air quand même très gêné aux entournures. On savait bien ce que les Russes préparaient, mais on a de toute façon les mains liées. Et Biden l'a dit d'ailleurs de manière extrêmement cash, peut-être même trop cash, quand on lui a posé la question, mais est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un soldat américain sur ce sol-là ? Il a fait surtout pas, certainement pas, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Donc il a fermé une porte en quelque sorte, et il l'a même claqué cette porte, non ?
Oui, il a totalement claqué cette porte et très vite pour deux raisons. Premièrement, pour celle que vous rappelez, évidemment, il ne peut pas y avoir de confrontation entre deux armées conventionnelles de puissance nucléaire. Donc ça, c'est hors de la table. Mais aussi pour des raisons politiques intérieures, l'opinion publique états-unienne est fatiguée des interventions extérieures. Il y a environ 55% de la population états-unienne dans tous les sondages. On trouve cette proportion qui désapprouverait toute intervention en Ukraine, et Biden doit tenir compte de cette opinion publique états-unienne qui ne veut plus d'intervention militaire à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, il doit rassurer aussi son opinion publique.
Ce qui est valable, Corentin, pour les Européens, l'est aussi pour les Américains. De ce point de vue-là, il y aura un prix à payer pour les sanctions russes, forcément. Est-ce que les Américains sont prêts à ce genre de sacrifice pour Kiev et pour les Ukrainiens ? Est-ce que Biden est assez solide sur ses bases pour imposer cela, donc ces contraintes qui seront des contraintes économiques aux Américains ?
Alors, c'est toute la question, et c'est intéressant de voir que c'est sur ce point-là que ces plus forts, ces plus vocaux opposants l'attaquent, puisque l'ex-président Donald Trump, le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, tous ceux qu'on appelle les républicains America First, l'attaquent précisément sur la hausse du coût de la vie, qui est déjà une réalité aux États-Unis, hein, l'inflation, etc. Et ils disent, cette guerre va en Europe, va créer des problèmes d'approvisionnement, va créer des problèmes dans le commerce mondial, on va se mettre encore plus de problèmes sur le dos qu'on en a déjà. Pourquoi ne réglons-nous pas nos problèmes économiques en interne ? Et ce discours a un véritable écho. Et de ce point de vue-là, oui, Biden est fragilisé, car pour la première fois depuis très longtemps, on voit dans une situation face à un ennemi, j'allais dire, historique, qui est la Russie, on voit une classe politique divisée et des personnes comme Donald Trump qui préfèrent de toute évidence Poutine à Biden. Donc ça effectivement, oui, il est affaibli.
Avec d'autre part des États-Unis, on l'a beaucoup dit tout au cours de ces jours précédents, qui sont contraints de se réengager en Europe. On a bien compris que cette crise n'était pas conjoncturelle, donc il faudrait probablement y rester un certain temps. Jusqu'à quel point ça bouleverse totalement l'agenda de Biden et rebat les cartes géopolitiques, ouvre presque qu'un autre front, en fait, après le front, j'y mets des guillemets, parce que c'est pas une guerre, le front en mer de Chine, donc le front ukrainien.
Alors, oui, mais c'est toute la question, c'est qu'il est évident que pour les États-Unis de l'administration Biden, l'Ukraine n'était pas un dossier prioritaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a bien vu qu'il cherche à responsabiliser ses alliés, qu'il cherche à obtenir d'eux des engagements forts, qu'il a obtenu, par exemple, de l'Allemagne avec la sanction sur le Nord Stream 2. Les États-Unis gardent un œil sur ce qui se passe à Taïwan, où on a noté d'ailleurs des incursions très très fréquentes d'avions chinois dans l'espace aérien taïwanais, parce que justement, pour eux, il peut y avoir un scénario de cauchemar, c'est-à-dire une forme d'alliance objective entre la Russie et la Chine, et où Taïwan viendrait après l'Ukraine. Et ça, vraiment, pour eux, c'est le scénario à éviter absolument.
Corentin Célin, merci beaucoup. Là-dessus, Pierre Aski, on est vraiment dans votre jardin. Moi, je trouve la Chine assez discrète, finalement, pour l'instant. C'est bien le seul allié, c'est quand même très 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 gros allié et en même temps très très supérieur à la Russie à bien des égards. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping à votre avis en ce moment ?
Je pense qu'il y a de l'hésitation. À la fois, il soutient le même objectif politique que Vladimir Poutine, qui est la remise en cause de l'hégémonie occidentale et du monde tel qu'il existe. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr qu'il approuve totalement la méthode. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, qui était la semaine dernière à Munich, à la conférence sur la sécurité, dire la souveraineté de tous les États est importante, y compris l'Ukraine. Donc on est dans un léger décalage. Il y a un test qu'attendent les diplomates, c'est le Conseil de sécurité qui doit voter sur une résolution, soit cette nuit, soit demain. Il y aura sûrement un veto russe, évidemment, ça paraît logique. Mais les diplomates attendent de voir si la Chine s'abstient ou participe au veto, mais elle aussi son veto à la résolution. Si elle s'abstient, je pense que ce sera un signal majeur. Si elle met son veto avec la Russie, on sera dans cette alliance qui prend corps progressivement entre les deux pays. On a vu Vladimir Poutine à Pékin à l'ouverture des JO et un communiqué extrêmement important de réaffirmation de ces liens. Et c'est effectivement là, je pense, la chose qui inquiète le plus les Américains.
On a l'impression, alors on verra effectivement, comme vous dites, ce que fera la Chine, mais on se dit que être complètement isolé sur la scène internationale, au fond, Vladimir Poutine s'en fiche. En réalité, est-ce qu'il s'en fiche tant que ça?
Alors, il a ce recours chinois. Il l'a eu en 2014 lorsqu'il a annexé la Crimée. Il y a eu les premières sanctions et il a eu la Chine. Il s'est rapproché de la Chine qui lui a permis de surmonter l'impact des sanctions. Et donc, le monde aujourd'hui est un peu différent. Quand on dit la Russie est isolée, elle n'est pas si isolée que ça parce qu'elle a la Chine et une partie du monde qui adhère d'une manière ou d'une autre à cette vision de remise en question de l'ordre occidental. On a aujourd'hui même à Moscou le premier ministre pakistanais qui est en visite officielle, le vice-président soudanais qui est un militaire qui vient de faire un coup d'État qui est en visite officielle. On a cette influence russe qu'on a vue à l'œuvre au Mali et dans d'autres pays d'Afrique. le monde aujourd'hui est beaucoup plus complexe que simplement l'isolement de la Russie.
Et ça nous donnera l'occasion d'en reparler dans la deuxième heure. Pierre Aski, merci beaucoup. Vous restez avec nous. La suite de ce 18-20 spécial, ce sont vos questions au 01 45 24 7000. Ce sera juste après le journal de 19h. Merci de rester avec nous.